Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Nous allons un petit peu feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va s'intéresser aux étoiles, on va s'intéresser à la médecine, aux technologies. C'est ce que nous vous proposons dans cette émission du 2 mars 2019. Le temps passe vite. Salut Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Je vois que tu restes maintenant une fidèle de cette émission, aussi bien devant que derrière le micro, c'est-à-dire en tant qu'auditrice, mais en tant qu'un animatrice
tout
également.
À fait.
Mais tu as tellement raison, ta voix est tellement agréable.
Et c'est contente. Vrai que ça fait du bien.
En plus, je pense qu'aujourd'hui, tu vas traiter de sujets sérieux.
Oui.
Oui, c'est. Enfin,
oui, mais pas que. Y a des... On va commencer par du très sérieux et puis après, il y aura des choses quand même avec, avec des petits clins d'œil. Et puis, je compte sur toi, en fait, pour le.
Pour le.
Pour le côté un peu plus humoristique.
Ah non mais attends, cette émission est une émission sérieuse, Carole.
Je n'ai jamais dit le contraire.
Mais pourquoi humoristique ? Nous sommes le 2 mars et donc nous commençons toujours cette émission par l'éphéméride. Le 2 mars 1969, l'avion supersonique, le Concorde, effectue son premier vol d'essai à Toulouse. Le premier vol commercial aura lieu 7 ans plus tard. En 2002, la sonde spatiale Mars Odyssey de la NASA a trouvé des traces de glace sur Mars et il y aurait donc peut-être des grandes quantités d'eau sur Mars. Cette découverte relance l'hypothèse scientifique selon laquelle des formes de vie auraient existé justement sur cette planète rouge. Le 2 mars, ce n'est pas une journée internationale, c'est une journée banale comme les autres. Voilà, donc un 2 mars comme les autres, une naissance. Le 2 mars 1883, celle de Leonard Colebrook, médecin et bactériologiste anglais. Il est surtout connu pour avoir inauguré le traitement de la fièvre puerpérale. C'est une maladie infectieuse de la femme qui survient après un accouchement ou une fausse couche. Et il était également l'un des pionniers de l'antisepsie et de l'asepsie. Donc vraiment des découvertes très importantes de ce bactériologiste et médecin anglais, Leonard Colebrook, né le 2 mars 1883. Le décès, le 2 mars 1830, de Samuel Thomas von Sommering, médecin, anatomiste, anthropologue, paléontologue, inventeur allemand. Il a touché à tout cet homme. Il consacre une partie de sa thèse de médecine à l'organisation des nerfs crâniens, les nerfs du crâne, des observations qui restent encore valables aujourd'hui. Il publie de nombreuses publications dans le domaine de la médecine, en anatomie, en anthropologie, en paléontologie, en astronomie, en philosophie. Il était quand même multicarte, ce Sommering. Et c'est également un inventeur prolifique. Il travaille notamment sur des télescopes et sur un télégraphe électrique en 1809. 2 ans plus tard, il développe le premier système télégraphique de Bavière, qui est actuellement conservé au Muséum allemand des sciences et des techniques de Munich. Et il s'intéresse également aux aérostats. C'est lui qui réalise le premier ballon à air chaud d'Allemagne. Il est décédé donc le 2 mars 1830 à Francfort. Samuel Thomas von Sommering. Pour ce 2 mars, voilà, c'était l'éphéméride. Et comme toutes les semaines depuis le début de cette année 2019, vous savez que 2019, c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments. Eh bien, en 2019, dans cette émission Biotine, à chaque fois, nous allons remplir une case et je vous propose de remplir la case du xénon dans ce tableau. Le xénon, qui est un gaz incolore et inodore, et lors de recherches sur l'ivresse des profondeurs en 1939, Albert Benkel Jr. supposa que le xénon puisse être utilisé comme anesthésiant. Et donc la première opération chirurgicale utilisant le xénon date de 1951, mais la plus grande application du xénon, ça reste bien sûr celle des lampes à arc qui sont utilisées dans les projecteurs de cinéma, bien sûr les phares de voiture, ces fameux phares au xénon, et les phares maritimes, par exemple le phare de Créac à la pointe de l'île d'Ouessant qui utilise 4 lampes au xénon et qui procure une visibilité à plus de 61 km. C'est quand même assez important pour un phare, et c'est quand même pas mal,
c'est
61
mieux,
km, et donc c'est tout ça grâce au xénon. Et xénon, ça vient d'où ? Ben, tout simplement parce que William Ramsay et Maurice Travers pensaient avoir réussi à isoler le krypton, nous sommes en 1898, ils se rendent compte en fait qu'il y a un autre élément qui est là, qui est présent, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, et comme c'est un peu un corps étranger qui est contenu dans le krypton, ils vont l'appeler xénon, du grec xénos, qui a donné aussi xénophobe, donc cette idée d'étranger. Et voilà, on a conservé ce nom de xénon. Et donc on a rempli aujourd'hui la case xénon dans le tableau périodique des éléments. J'en suis fier et je suis très satisfait de cela. Et je le dis et je le proclame et j'assume. Parce que le reste de l'émission va être quand même une émission sérieuse. C'est très souvent sérieux, Biotine.
Bon,
mais je crois
sérieux,
qu'aujourd'hui,
oui.
Carole, tu as décidé, et je reconnais cette femme avec cette idée de la perfection, cette idée d'avoir la qualité et de toujours aller au plus haut au niveau de qualité.
Et, n'en faisons et peut-être ça, pas trop.
Et ça, Carole, je t'en remercie parce que parfois, les auditeurs qui sont fidèles de cette émission le savent très bien.
Oui, les téléspectateurs.
Parfois,
oui.
J'allais dire téléspectateurs.
On est presque
pourquoi,
à la télévision.
Mais c'est presque ça, parce que c'est un vrai spectacle également. Non, ils le savent très bien. Parfois, je tombe dans la facilité. Mais jamais, Carole. Jamais. Carole, tu nous parles de quoi ?
De l'histoire de l'univers.
D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse donc le micro, je te laisse les clés oui. Du studio. Tu penses bien
à
fermer.
À tout à l'heure.
Je vais aller
on
déjeuner.
On en a pour plusieurs heures, je pense. Non,
oui.
Mais non.
Est-ce qu'il faut prendre des notes ?
Mais pour ceux qui veulent, oui, vous pouvez. Vous pouvez. Non, on va quand même vulgariser ce sujet-là.
Ah, mais je n'en doute pas. Mais je ne doute absolument pas de tes capacités à vulgariser, Carole. C'est, je me dis, c'est le... C'est un sujet important.
Oui, et on pourrait dire sûrement plein de choses, mais on va bien sûr se concentrer sur une des modalités de l'univers, c'est-à-dire l'observation de galaxies, et pas n'importe quelle galaxie, les plus anciennes, justement.
Oh, bah ça va. C'est bon.
Et oui, parce que cette observation, en fait, elle ouvre une fenêtre sur une période qui est quasi inconnue de l'histoire cosmique, d'où l'intérêt des chercheurs sur le sujet. Alors, c'est un article, en fait, publié dans Pour la Science fin janvier dernier, qui a attiré mon attention et qui nous rappelle dans un premier temps que l'histoire de l'univers elle a commencé il y a près de 13,8 milliards d'années avec donc le Big Bang. Par la suite, donc, les cosmologistes et les astrophysiciens ont construit un modèle qui donne une vision globale assez précise de l'évolution de l'univers depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, certains épisodes en fait restent mal connus et on imagine qu'ils pourraient peut-être bientôt se dévoiler, notamment ceux qui concernent la naissance des premières étoiles et galaxies. En effet, hein, les astronomes ont récemment observé des galaxies qui remontent à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est-à-dire que ça nous paraît beaucoup, quelques centaines de millions d'années, mais il faut imaginer que c'était finalement juste après la naissance de l'univers. La lumière d'une de ces galaxies, nommée SPT0615JD, où ils donnent des noms très sympas. J'étais en train de réfléchir à un surnom, si jamais on le trouve.
On va y réfléchir.
Donc cette lumière qui provenait de cette galaxie, elle a entamé en fait son voyage vers la Terre il y a 13,3 milliards d'années. Donc c'est énorme et c'est quasiment en effet le tout début de la vie de l'univers. Et elle a été observée en fait pour la première fois en 2017 grâce au télescope spatial Hubble dans le cadre d'un projet donc qui s'appelle RELIX pour toujours difficile à prononcer, Reionization Lensing Cluster Survey. Et en fait, ce programme, il a été conçu pour détecter des galaxies parmi les premières formées dans le cosmos. Le relevé RELIX a collecté des données entre octobre 2015 et octobre 2017, donc pendant 2 ans, en accumulant, attention, plus de 100 heures d'observation sur le télescope Hubble et plus de 900 heures sur le télescope spatial Spitzer. Le projet a permis de détecter plus de 300 galaxies remontant aux premiers milliards d'années de l'univers. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut bien situer. On est dans quelque part, à l'échelle des temps, la première année de vie. Alors là, c'est le premier milliard d'années de l'univers. Donc ces objets, ils sont fascinants parce qu'ils fournissent en fait un aperçu d'une période de l'histoire cosmique qui est encore très mal connue. En étudiant les galaxies, les chercheurs, ils espèrent comprendre comment les premières d'entre elles se sont formées et ont influé sur l'évolution de l'univers jeune. Par exemple, ils pensent que les galaxies telles que celles dont la lumière nous est parvenue, la fameuse SPT0615JD, ont transformé le contenu de l'espace primordial en émettant des bouffées de rayonnement ultraviolet. Ces émissions de haute énergie ont arraché les électrons des atomes d'hydrogène neutre qui emplissaient l'univers, les faisant revenir à leur état ionisé initial. On parle de la période de réionisation, mais les détails de ce processus sont encore assez mal connus. On imagine que les galaxies anciennes qui commencent à être observées, elles vont révéler justement de nombreuses informations sur le sujet. Donc, ce qu'on sait déjà, ce qu'on peut dire sur ces galaxies de la première génération, c'est qu'elles ne ressemblaient pas du tout à celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient plutôt pures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, elles étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium gazeux. Avec le temps, les étoiles de ces galaxies ont produit par fusion thermonucléaire des éléments plus lourds. Ensuite, quand ces étoiles sont arrivées en fin de vie, elles ont explosé sous la forme de supernovas, produisant encore d'autres éléments et les dispersant dans l'espace voisin. Elles ont enrichi les galaxies en matériaux stellaires, et on le rappelle, c'est ces matériaux dont les éléments finalement sont nécessaires à l'apparition de la vie. Les premières galaxies ne formaient pas encore de majestueuses spirales ou de boules ellipsoïdales, comme on peut le voir sur les représentations, les photographies que les télescopes font aujourd'hui dans le voisinage de la Voie lactée. Elles étaient beaucoup plus désordonnées et beaucoup plus petites. C'est ce qui les rend d'ailleurs encore plus difficiles à trouver. Celles qui ont été vues par les chercheurs là, à l'heure actuelle, c'est issue de ces travaux entre 2015 et 2017, elles faisaient environ 1% de la taille de la Voie lactée. Mais leur croissance était rapide et elles formaient de nouvelles étoiles à des vitesses prodigieuses. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que le combustible, donc le gaz hydrogène, il était présent à cette époque-là en abondance sous la forme de nuages et de courants froids capturés par l'attraction gravitationnelle des galaxies. Par ailleurs, donc, ces galaxies, elles entraient souvent en collision les unes avec les autres. Les fusions issues de ça, elles ont accéléré leur croissance et ont déclenché des flambées de formation stellaire. Avec l'expansion de l'univers, les fusions de grandes galaxies sont devenues plus rares, les réserves de gaz se sont réduites et donc la croissance des galaxies s'est peu à peu ralentie. Donc, globalement, les chercheurs ont ainsi finalement les grandes lignes de l'évolution des galaxies. Mais, et bien sûr, comme à chaque fois, de nombreuses questions subsistent, en particulier concernant les époques les plus reculées. Et donc, ils se demandent, par exemple, quand les premières galaxies se sont formées, elles étaient petites, mais quelle était leur taille plus précisément? Quelle forme prenaient-elles? Présentaient-elles toute une formation stellaire intense? Ou certaines étaient-elles plus calmes, comme la plupart des galaxies actuelles? Certaines des premières galaxies, est-ce qu'elles ont eu un peu de temps finalement pour former des disques comme la Voie lactée? Ou bien les fusions étaient trop fréquentes pour que cela se produise? Voilà. Est-ce qu'on trouvera aussi des galaxies qui ne contiennent que de l'hydrogène et de l'hélium, où très vite, en fait, les premières supernovas ont enrichi ces premières galaxies en éléments lourds? À quelle vitesse les premières galaxies ont-elles cru, du verbe croître, en masse et en nombre? Eh bien, avec les résultats justement du relevé RELIX, c'est toute cette période et toutes les réponses à ces questions qui vont être explorées par les chercheurs. Donc voilà. C'est encore récent, donc on peut comprendre que là, début 2019, on ait ses premiers résultats. Mais je pense qu'on aura d'autres articles prochainement.
Bien sûr, parce qu'il y a énormément d'interrogations, de trous noirs pour parler espace. Mais en tout cas, il manque énormément d'informations.
Alors, je conseille aux auditeurs, s'ils ont envie un petit peu de se représenter ce dont on vient de parler, d'aller sur Internet, justement, et il y a des photos, j'ai l'impression, qui ont été publiées par la NASA, donc prises par les fameux télescopes, qui nous montrent notamment, justement, à quoi ressemblaient, finalement, ces galaxies, à quoi ça correspond. Et on imagine, en fait, que cette image, elle est obtenue à partir de la lumière qui provient de cette galaxie qui a disparu depuis des milliards d'années.
C'est fascinant.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est beau quand tu nous parles comme ça, sérieusement.
J'ai l'impression que du coup, il y a une espèce de silence qui se fait dans le studio.
Mais c'est normal.
Un recueillement.
Un recueillement parce qu'on est vraiment dans l'immensité, en fait, et on se sent tout petit et totalement ridicule. Et je me dis qu'après un tel sujet, comment je vais enchaîner? Je n'ai pas d'idée. Du coup, j'ai un petit peu choisi au hasard cet article qui nous laisse toujours dans l'espace, mais qui nous ramène au niveau de la Station Spatiale Internationale et notamment des bactéries qui sont présentes dans cette Station Spatiale Internationale qui s'adaptent pour survivre. Elles vont s'adapter, donc elles vont évoluer, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Elles vont évoluer, mais elles ne vont pas muter. On ne va pas arriver avec des dangereux pathogènes ou alors des espèces d'aliens sanguinaires. Tu sais, un peu comme dans le film de science-fiction là, qui s'appelle Life, origine inconnue, qui date il y a 2 ans, où il y a une espèce de micro-organisme qui est totalement inoffensif, c'est mignon, et découvert sur Mars, puis c'est une espèce de monstruosité visqueuse qui se livre à un massacre à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est génial, je
horrible
kiffe.
Horrible film.
Ouais. Et oui, et ben voilà. Et ben non, mais non, ça reste de la science-fiction, ce film. C'est pas ça que ça va donner. Même si on peut se demander s'il y a quand même des conditions extrêmes en termes de radiation, en termes de micro-pesanteur, qui peut un petit peu favoriser la sélection des bactéries qui seraient les plus dures à cuire. Mais pourquoi pas des super bactéries multirésistantes aux antibiotiques? Ok, mais il apparaît que la réponse est non. C'est ce que déclare dans un communiqué Erika Hartmann de l'université Northwestern aux États-Unis, avec qui a travaillé avec des collègues et qui ont comparé le génome des bactéries de la Station Spatiale Internationale avec le génome de leurs homologues terrestres afin de mieux évaluer les risques sanitaires qu'elles représentent. Et donc, dans le cadre de cette étude parue dans le journal M-Systems, les chercheurs ont conduit ce qu'on appelle une méta-analyse sur deux bactéries. Le premier, c'est le staphylocoque doré. Le deuxième, c'est le bacillus cereus. Et donc le premier, on le retrouve communément sur la peau humaine. Il est considéré par l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, comme l'un des 6 pathogènes les plus préoccupants, hein, le staphylocoque doré. Rappelons en effet qu'une de ces souches est devenue résistante à la méticilline. Il est moins pathogène, l'autre, le bacillus cereus, mais ils vivent, quand ils vivent dans le sol. Et donc, ils ont travaillé sur ces deux bactéries. Sur les 189 génomes analysés, 106 provenaient de souches de staphylocoque doré et 83 de bacillus cereus. Les souches ont été prélevées dans divers environnements, à savoir le sol, les véhicules spatiaux, la station spatiale internationale et encore sur la peau des astronautes avant leur départ pour la station. Les chercheurs ont constaté l'existence de nombreuses variations dans le génome des bactéries isolées de la Station Spatiale Internationale par rapport à celui des souches qui vivent dans leur milieu habituel sur Terre, dans le sol ou sur la peau. Cependant, il y a des différences qui ont été observées. Des échanges, des mutations, la présence ou l'absence de gènes et qui étaient liées au métabolisme des bactéries, à leur réponse au stress, parce qu'elles sont dans des conditions quand même assez particulières quand elles sont dans la Station Spatiale Internationale, et également la réponse, c'est lié également à d'autres fonctions vitales comme la croissance, l'alimentation et ainsi de suite, mais pas directement de différence sur leur pouvoir pathogène. Il n'y a pas de mutation dans le sens où elle serait beaucoup plus dangereuse que celle qui serait sur Terre, en clair. Nous n'avons rien vu de spécial concernant la résistance aux antibiotiques ou la virulence des bactéries de la Station Spatiale Internationale. C'est ce que confirme donc cette chercheuse Erika Hartmann. Il semble qu'elles s'adaptent, ces bactéries, pour survivre, mais pas qu'elles évoluent pour déclencher des maladies. Mais oui, parce qu'elles sont mignonnes, les bactéries de la Station Spatiale Internationale, il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, elles évoluent, ces bactéries, mais elles ne se transforment pas en super bactéries. Ce sont... Mais oui, ce sont les premières conclusions qu'on a pour l'instant. Ça nous rassure, parce qu'après tout, on ne sait pas. À la rigueur, elles peuvent être soumises à des radiations particulières qui pourraient engendrer des choses qui seraient difficilement contrôler, bien sûr, on n'en sait rien.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Et donc, pour l'instant, on a fait une comparaison entre celles qui étaient sur la station spatiale, celles qui étaient sur Terre. Il y a des différences minimes, ou en tout cas qui ne sont pas liées à leur pouvoir pathogène, nous dit-on, ou en tout cas tentons de nous rassurer.
Alors, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une histoire qui fait peur ?
Ah oui.
Alors, c'est une histoire un petit peu de... J'allais dire, non, pas de cannibalisme quand même. On ne peut pas appeler ça comme ça.
Ah bon ?
Dommage. Mais c'est une histoire de prédateurs.
Ah.
Et surtout, pareil, de découvertes anciennes, puisqu'il s'agit de travaux réalisés sur des fossiles de jeunes cétacés primitifs, puisqu'on a retrouvé ces fossiles sous des ossements de Basilosaurus isis. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un cétacé super prédateur qui existait il y a 36 millions d'années. Et l'étude, en fait, donc, publiée dans Science et Avenir, suggère que, justement, ce super prédateur, eh bien, il dévorait ses propres cousins, c'est-à-dire les premiers cétacés que j'ai cités. Alors, on connaît le principe des poupées gigognes, une grande figurine qui contient une figurine identique, mais de taille inférieure, et ainsi de suite. Eh bien, dans la nature, les paléontologues peuvent ainsi retrouver des fossiles imbriqués les uns dans les autres, liés par la chaîne alimentaire. Et ils retrouvent comme ça, en fait, les vestiges des proies qui sont retrouvés dans la carcasse de leurs prédateurs.
D'accord.
Donc, ouais. C'est sympa, les fossiles poupées gigognes.
Tu as deux fossiles pour un seul, en fait.
Exactement, deux pour le prix d'un. Et puis, tu comprends qui mangeait qui. Et ça te permet un peu de faire des liens, justement, et de comprendre, à cette époque-là, comment fonctionnait la chaîne alimentaire. Et pour la première fois, c'est le repas, en fait, du terrible Basilosaurus isis. Alors là, pareil, j'invite à aller regarder des photos pour voir à quoi ça ressemblait. C'est vrai qu'on n'avait pas trop envie de tomber nez à nez.
Ça ressemble à quoi, en gros ? Tu parles d'un cétacé, donc
c'est un cétacé géant. En fait, c'est le cousin.
C'est le cachalot ?
C'est le cousin des orques modernes. Donc, ça ressemblerait plutôt à un orque. Mais on voit qu'il a un peu un... Enfin, c'est des reconstitutions, mais qu'en tout cas, il a une allure plus ancienne, plus primitive.
D'accord.
Et qui avait des rangées de dents impressionnantes. Hein. Donc, vraiment, voilà, un animal fait pour tuer, fait pour dévorer quand même des gros animaux. Et donc, en fait, on a regardé justement son festin. Et on a vu que donc à l'intérieur de ses entrailles, il y avait d'autres jeunes baleines carnivores de l'époque qu'on appelle des dorudons. Moi, je trouve ça mignon. comme donc Dorudon atrox en latin. Je trouve ça très mignon comme nom. On imagine donc c'est des petites baleines. C'est déjà gros, mais de petites baleines carnivores. C'est tout mignon. Retrouvé dans une énorme baleine carnivore.
Des petites baleines de milliards de tonnes, mais des petites baleines, c'est tout mignon.
On trouve ces petites baleines carnivores dans une énorme baleine carnivore. Alors ça affine le portrait de ce super prédateur, hein, le Basilosaurus isis, qui faisait donc une cinquantaine de tonnes et qui, à cette époque-là, semait la terreur dans les océans. Donc c'était il y a plus de 36 millions d'années. Et donc justement l'article scientifique de la découverte, il a été publié dans la très sérieuse revue Plus One. Alors l'étude, elle se base sur des découvertes paléontologiques qui ont été réalisées en Égypte au cours du XXe siècle dans le Wadi Al-Itan. C'est aussi un endroit qu'on appelle la vallée des baleines. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, immergé par des eaux peu profondes il y a quelques millions d'années, et c'est pour ça que ça en fait une zone de chasse de choix pour les mammifères marins d'antan. Un site donc exceptionnel où a été retrouvée une grande variété d'animaux marins fossilisés, baleines, mais également tortues, crocodiles, poissons, dont notamment un fossile donc de Basilosaurus isis. J'ai pas donné la taille, j'ai juste dit qu'ils étaient grands et impressionnants. En fait, ils faisaient 18 mètres de long.
Ah oui,
on imagine. Ah ouais, et on a retrouvé son dernier repas non digéré, composé de jeunes dorudons. Et qui a aussi, lui, été fossilisé. Enfin, ils ont aussi été fossilisés. Donc, il y en avait plusieurs en plus. Le Manja Voss, hein, du Musée d'Histoire Naturelle de Berlin, qui est co-auteur de la publication, nous dit qu'en fait, c'est très rare, surtout chez les baleines fossiles, parce que le régime alimentaire en fait, de certaines espèces de baleines passées, il demeure encore entièrement inconnu. Et c'était jusqu'alors le cas pour Basilosaurus isis, avant que, justement, ils commencent un petit peu leur enquête et à essayer de reconstituer et de comprendre les relations écologiques entre les différents prédateurs. Donc pour la petite histoire, les premiers dorudons découverts ont d'abord été pris en fait pour de jeunes Basilosaurus, tant les deux espèces se ressemblent. Encore une fois, ce sont des cousins proches. Alors comment les chercheurs ils ont pu s'assurer que les jeunes dorudons avaient bien été dévorés par Basilosaurus? C'est-à-dire en d'autres termes que leurs fossiles ne s'étaient pas retrouvés sous une cage thoracique de Basilosaurus par hasard?
Oui.
On ne sait jamais.
C'est une vraie question, c'est ce que je me demande.
Ils sont fait écraser. Non, mais c'est en fait donc Manja Voss nous dit que les fossiles leur ont permis d'affirmer justement que Basilosaurus était leur prédateur, parce qu'il y avait donc plusieurs arguments. Déjà, ils les ont retrouvés dans une cavité correspondant à l'estomac du Basilosaurus, avec des marques de dents sur la tête correspondant à celui du prédateur.
D'accord.
Dans certains cas, les os avaient visiblement été brisés par la morsure. On imagine quand même un peu le carnage, hein. Même si c'est fossilisé, bon. Alors, il leur restait quand même à écarter une hypothèse, celle d'une activité charognarde des petits dorudons sur le gigantesque Basilosaurus déjà mort.
Oui.
Et ils disent que donc ce n'est pas possible, parce qu'il s'agissait de jeunes non sevrés qui avaient des dents de lait. Donc, ça confirme en fait le statut de super prédateur du terrifiant Basilosaurus, qui se nourrissait de gros poissons, mais aussi de jeunes cétacés, donc ses cousins. C'est un rôle écologique aujourd'hui qui est joué par l'orque, qu'on appelle encore parfois la baleine tueuse. Hein. C'est vrai que l'orque a cette réputation, mais il faut quand même le dire, l'orque a une taille toutefois 2 à 3 fois plus petite que son très 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 ancien cousin. On peut en conclure aussi qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, l'Égypte devait décidément être un endroit terrifiant où plonger. Peu de plongeurs à cette époque.
Oui, c'était déjà pas trop un loisir que l'on pratiquait. Et il mangeait ses petits cousins.
Oui, et en plus des étonnant. Bébés, c'est-à-dire que des jeunes non sevrés, ben c'est plus facile à attaquer, je pense.
Oui, mais c'est plus facile. Et puis c'est peut-être plus
meilleur,
goûtu.
Plus tendre, oui.
Ça va être un peu plus tendre.
Il nous a pas laissé un mot pour nous dire, mais en tout cas.
Pourquoi il a disparu? Parce que, à partir du peu d'éléments qu'on a, on se dit qu'il était quand même assez costaud. On voyait très peu de prédateurs qui auraient pu s'attaquer à lui.
Bonne question, mais on pourra chercher l'information, sachant que ce qui peut se passer. En général, d'ailleurs, c'est... Alors, soit, en effet, si là, on imagine qu'il n'y avait pas forcément de prédateurs, ça peut être des modifications environnementales qui n'étaient plus propices et à son développement et donc peut-être moins de descendance et une disparition. Mais je regarderai l'information.
Il n'y a pas de descendant direct de lui. Il y a des cousins.
Il y a peut-être une descendance à vérifier aussi, mais avec peut-être justement des modifications morphologiques. En tout cas,
peut-être,
toute
oui.
la descendance a permis d'évoluer jusqu'à l'orque actuel. C'est okay. ça la ligne.
D'accord. Oui, donc
avec
un
cétacé un peu plus petit, quand même avec toujours un carnivore et impressionnant, mais du coup avec d'autres proportions et une morphologie un peu différente.
Morphologie peut-être plus différente, qui nécessite moins aussi de nourriture quelque part. Il y avait peut-être... Peut-être tout était lié. Je sais pas, faudrait qu'on l'invite dans cette émission.
Oui. Alors l'invité, non, ça va aller, mais je vais regarder.
Oui, on a compris qu'il n'avait pas une dentition qui te faisait plaisir, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Bon, bah parfait. Eh bien, on a parlé donc de ces orques qui se mangent entre eux, en tout cas qui mangent des petits cousins. On va faire une petite pause musicale dans cette émission. On se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite. On parlera de la dépression saisonnière et le temps de cette émission. Je vous propose de noter la couleur de vos yeux sur une feuille et après je vous dirai un petit peu la raison de tout cela tout de suite sur l'antenne de Graphite.
À la fête, j'ai mon verre à la main. Je me plains que tu me manques des lendemains qui déchantent. Toujours dimanche. Je danse, je mélange les sens, les substances, les liqueurs, les mouvements, les humeurs. Les substances, les liqueurs, les mouvements, les humeurs. Je fais la fête, je vis la nuit, je fuis la fête, j'ennuie la nuit. Les faux semblants, les amants tristes, le jour se lève. Je bois, je danse, je fume, je ris. À quoi tu penses? Tout est fini, empli d'alcool et de chimie. J'oublie la vie, j'oublie l'envie.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Elouva, sur l'antenne de Graphite avec La Fête tirée de son album Echo Valley. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes en train de parler de l'espace, nous sommes en train de parler de la vie, nous sommes en train de parler de ces baleines qui sont en train de se manger entre elles et on va également parler de la dépression saisonnière, notre humeur qui varie en fonction des saisons, mais ce phénomène est plus marqué chez certaines personnes qui souffrent de ce qu'on appelle une dépression saisonnière ou, pour un terme plus médical, un trouble affectif saisonnier. Est-ce que tu souffres de troubles affectifs saisonniers, Carole ?
Non. Enfin, j'ai pas l'impression, mais je crois que ton article va peut-être me faire changer d'avis.
En fait, pendant les mois d'hiver, cette dépression un peu récurrente, elle se caractérise par une mauvaise humeur, de la fatigue, une tendance à l'endormissement et un isolement de l'individu. En te regardant, Carole, je n'ai pas l'impression que tu sois atteinte d'un trouble affectif saisonnier.
Non,
en
tout cas, tout va bien.
La prévalence de ce trouble reste assez floue. En général, on estime que 1 à 10% de la population en souffre. Quand les symptômes sont légers, eh bien, ce trouble est plutôt qualifié de ce qu'on appelle le blues de l'hiver. Et les causes exactes de ces dépressions restent peu précises, même si un lien avec la baisse de la luminosité, le fait que les jours sont plus courts est suspecté, mais on n'en sait guère plus. Dans un article paru dans la revue The Conversation, eh bien, Lance Workman, professeur de psychologie à l'université du sud du Pays de Galles, propose une autre explication. Il propose la couleur des yeux, qui influencerait le risque de dépression saisonnière. C'est en tout cas ce que son équipe a prouvé dans une publication de la revue Open Access Journal of Behavioral Science and Psychology. Je ne le répéterai
c'est
pas
long,
deux
c'est
fois.
Long.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Donc, oui.
Ils ont fait le protocole suivant. 175 étudiants de deux universités, l'une au Pays de Galles, donc tu imagines le Pays de Galles, l'autre à Chypre, donc tu imagines
oui.
Chypre. Ces étudiants ont participé à ces travaux. Ils vivaient donc dans des latitudes totalement différentes. L'objectif était, entre autres, de tester l'hypothèse selon laquelle plus on s'éloigne de l'équateur, plus on risque la dépression saisonnière. Il existe un questionnaire qui sert à diagnostiquer la dépression saisonnière. Un score élevé à ce questionnaire indique donc un trouble affectif saisonnier plus sévère. D'après les résultats obtenus dans cette étude, la latitude n'avait pas d'effet contrairement à la couleur des yeux. En effet, les participants aux yeux clairs obtenaient des scores plus bas au questionnaire que ceux qui avaient les yeux sombres. Les yeux marrons étaient les plus déprimés. Quelle est la couleur de tes yeux, Carole ?
Plutôt marron. Après, des fois, ils s'éclaircissent, hein, mais on est quand même plutôt sur du sombre.
J'adore ceux qui ont les yeux
sombres. Il y a des petits reflets. Non, mais c'est intéressant, c'est plus noisette. Noisette dorée. Non, ça n'existe pas.
J'adore ça. J'adore les yeux. Quand les gens qui ont les yeux marrons ne diront jamais qu'ils ont les
marron.
Yeux marrons.
Bah, dit comme ça, c'est un peu. Et toi, Jean-Noël,
moi,
alors.
J'ai les yeux verts. Donc, voilà. Donc, je dis j'ai les yeux verts, mais les yeux marrons, non, toi, ta noisette. Il y en a qui vont dire ils sont verts, mais alors verts tellement foncés que oui, c'est marron.
D'accord.
Oui,
mais moi, je suis étonnée. Je vais peut-être un peu trop loin et tu vas nous raconter la suite, mais ils ont aussi étudié le biais de quand même deux populations qui vivent dans des environnements différents. Parce que, OK, ils disent la latitude, etc., mais il n'y a pas d'autres biais quand même. On peut imaginer que, du coup, les yeux clairs étaient dans des populations qui, de toute façon, subissent des conditions plus difficiles en termes de... Non ?
Je n'en sais rien. Arrête de poser
continue,
des questions.
Continue.
Mais pose tes questions à Lance Workman.
Oui, donne-moi son adresse mail.
Parce que la question qu'on peut se poser, tu aurais pu me poser la question, mais comment la couleur des yeux peut-elle influencer notre humeur ?
Ça, je savais que tu allais nous le raconter, donc je ne veux pas
Pourquoi ?
Spoiler
comment,
nos auditeurs.
Comment ça se
oui,
fait ?
Oui, comment ça se fait ?
Eh bien, dans l'œil, tu as des cellules photosensibles de la rétine, donc sensibles à la lumière, qui transforment l'information visuelle en signal électrique qui permet au cerveau de reconstituer une image. Ça, OK, on a compris. Certaines cellules de la rétine envoient à l'hypothalamus, qui est une région donc du cerveau, un signal sur la quantité de lumière. Comme les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière, ça s'est prouvé, eh bien, pour le fameux Lance Workman, cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'absorber autant de lumière que les yeux bruns ou foncés afin que cette information n'atteigne les cellules, rétiniennes. Ainsi, les personnes ayant les yeux les plus clairs libèrent moins de mélatonine pendant l'automne et l'hiver. Ce mécanisme pourrait donner aux personnes aux yeux clairs une certaine résilience aux troubles affectifs saisonniers, bien qu'une proportion plus faible puisse toujours souffrir de ce trouble. La mélatonine est produite la nuit par l'organisme et donne un signal sur l'alternance jour-nuit. Une hypothèse est que les personnes souffrant de ce trouble produisent trop de mélatonine en hiver et la mélatonine est fabriquée à partir de la sérotonine, Et donc, pour les chercheurs, les yeux clairs, les yeux bleus, par exemple, seraient la conséquence d'une mutation qui a aussi donné une peau plus claire. Et cette évolution génétique aurait permis aux populations de produire plus de vitamine D à partir des radiations du soleil dans les régions qui sont moins ensoleillées en hiver. Et cette mutation pourrait donc ainsi être considérée comme une adaptation anti-troubles affectifs saisonniers, des hommes préhistoriques lorsqu'ils ont migré vers le nord. Mais la couleur des yeux n'est certainement pas la seule cause de la dépression saisonnière. Les personnes qui restent trop à l'intérieur sont aussi plus sujettes à ce trouble. Aussi, en hiver, nous dit-on, sortez de chez vous pour profiter de la lumière lorsque le temps est ensoleillé. La luminothérapie est aussi connue, bien sûr, pour traiter la dépression saisonnière. Mais voilà, c'est la première fois qu'on fait une corrélation entre la couleur des yeux et ce trouble affectif saisonnier, en fait, cette espèce de blues qu'on a tous, mais apparemment plus ou moins en hiver, parce qu'on n'en peut plus de ce temps pourri.
Oui, non, mais donc quelque part, en fait, ça a répondu à ma question, la fin de l'article.
Mais évidemment, évidemment.
Merci. Donc, en effet, il y a bien une explication géographique après, avec une mutation qui favoriserait des populations, on va aller vite, mais des populations aux yeux clairs, justement dans ces fameuses zones où la météo est très pourrie. Et à Chypre, bah, oui, du coup, on a les yeux marrons.
J'aime bien ce résumé de cet article.
Voilà, quelques mots.
Lance Workman, il a travaillé pendant des années sur ce sujet-là, mais Carole a réussi en 2 minutes à nous donner une conclusion pertinente et juste, c'est parfait. De quoi vas-tu nous parler maintenant?
Alors, on va partir sur le plaisir de manger.
En plus,
c'est l'heure.
Bah oui, il est à peu près de midi et demi passé, donc tu m'étonnes.
C'est l'heure. Et puis, moi, je ne sais pas, mais moi, ça reste un grand plaisir de la vie, manger. Donc, des chercheurs se sont intéressés, justement.
Tu as des plaisirs simples, en fait, finalement.
Tout à fait. maintenant, on n'est plus dans les fêtes, etc. Hein, quelques mois ont passé, mais il y a toujours une bonne occasion pour faire un bon restaurant. Donc, comment ça se passe, justement? Eh bien, les chercheurs se sont intéressés, en fait, au pic de libération d'hormones. Et là, on va parler de pic de libération de dopamine au moment de l'ingestion des aliments. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait justement deux pics bien distincts. Alors, déguster un délicieux milkshake dans une machinerie d'imagerie par résonance magnétique, donc un IRM, si vous avez envie, c'était l'étonnante expérience à laquelle des chercheurs de l'Institut Max Planck de Cologne, en Allemagne, ont soumis une douzaine de gourmands. Quel était leur objectif? Eh bien, c'était observer avec précision l'activité cérébrale lorsque l'on mange pour mieux comprendre le rôle du plaisir dans nos comportements alimentaires. Alors, on sait que ce sentiment, il est directement dû à la libération du neurotransmetteur le plus important du circuit dit de la récompense, c'est-à-dire la dopamine.
Bien sûr. Voilà, on en parle souvent de la dopamine dans cette émission.
Parce qu'elle est présente dans de nombreux phénomènes physiologiques. Et donc, typiquement, quand elle est libérée et active, justement, le système cérébral devient lui-même actif. Comme la sensation d'un objectif qui est atteint ou d'un désir qui est assouvi. Mais quand, comment et avec quelles répercussions sur la façon de s'alimenter? C'est justement ce que ces chercheurs ont éclairci de façon expérimentale dans leur étude publiée par la revue Cell Metabolism. Ils ont ainsi établi que le cerveau remercie toujours deux fois le mangeur au cours d'un repas. Et non une seule, en fait. Ils ont en effet enregistré deux pics bien distincts de libération de dopamine grâce aux données de l'IRM et d'une technique d'analyse qu'on appelle PET, c'est la tomographie par émission de positrons, spécialement développée pour mesurer en 3 dimensions l'activité métabolique du cerveau. Donc deux doses de plaisir en quelque sorte qui se produisent. La première, c'est au moment même où les aliments sont portés à la bouche. La seconde, 15 à 20 minutes plus tard, soit à peu près lorsque la nourriture a atteint l'estomac. C'est ce que nous précise donc Heiko Beeks qui a dirigé ces travaux. Plus surprenant, c'est qu'en fait, l'effet de ces deux doses de dopamine se voit dans des régions différentes du cerveau. Heiko Beeks poursuit et nous dit que, alors que la première dose est délivrée dans les régions associées à la perception sensorielle et au circuit de la récompense, la seconde dose, elle apparaît dans les régions liées aux fonctions cognitives supérieures. Le premier pic est donc une réponse à la saveur de la nourriture qui active un réseau orosensoriel, donc relatif au goût, tandis que le second fait intervenir l'intestin, la dopamine remontant jusqu'au cerveau. Alors, ce plaisir à double détente, eh bien, il pourrait jouer un rôle important dans les mauvais comportements alimentaires susceptibles d'aboutir à des problèmes de surpoids ou d'obésité, selon les auteurs justement de l'étude. Et ils ont déjà commencé à creuser cette piste en demandant à leurs cobayes d'évaluer leur désir subjectif de boire un milkshake. Sans surprise, plus grande était l'envie, plus la première dose de dopamine était importante. Chez les plus gourmands, eh bien, ils ont montré que la deuxième était retardée et plus faible. Autrement dit, un désir plus grand inhiberait la production de dopamine par l'intestin et potentiellement le signal de satiété, conduisant à manger plus que nécessaire et donc à favoriser l'embonpoint. Voilà, c'est la conclusion de cette étude. Donc peut-être par la suite, quand on aura bien creusé la piste de ce mécanisme, il existera, peut-être pas des traitements, mais en tout cas des façons pour les personnes qui ont cette tendance à renforcer leur deuxième signal. Ou à faire diminuer le premier, mais enfin en tout cas à réguler ça pour que justement la sensation de satiété soit atteinte plus rapidement.
Je n'ai jamais de sensation de satiété avec vous, Carole, vous le savez très bien. Une équipe de neuro-ingénieurs américains viennent de mettre au point une intelligence artificielle capable de convertir le signal électrique du cerveau en paroles. Leur résultat vient d'être publié dans la revue Scientific Reports. Jusqu'à présent, les applications réelles de ce type de système seraient limitées. Des chercheurs avaient par exemple réussi à piloter un drone par la pensée ou à faire collaborer trois personnes pour jouer au jeu Tetris. On en avait parlé dans cette émission il y a quelques mois. Et à chaque fois, le système repose sur des commandes très simples qui nécessitent une concentration particulière. Pour cette nouvelle expérience de ces ingénieurs américains, le sujet n'effectue aucun effort conscient. La recherche menée porte non pas sur la vocalisation des pensées des sujets, mais sur les mots entendu. Pour cela, les chercheurs se sont intéressés dans la partie du cerveau qui reçoit et analyse les informations extraites des sons. Il s'agit d'un défi de taille puisque la tâche reste similaire, à savoir transformer les signaux du cerveau en sons. Cette approche a l'avantage de permettre une comparaison entre ces signaux et les mots entendus. Ils utilisent ensuite les technologies de ce qu'on appelle le deep learning pour essayer d'analyser les enregistrements et d'entraîner l'intelligence artificielle à reconnaître les mots. Alors concrètement, les chercheurs ont utilisé un système d'électrodes invasifs pour mesurer l'activité du cerveau. Ils ont profité d'une intervention neurochirurgicale sur des patients atteints d'épilepsie pour implanter des électrodes afin de procéder à des mesures d'électroencéphalographie intracrânienne. Et les chercheurs ont ensuite demandé aux patients d'écouter des histoires lues par deux hommes et deux femmes. À cause des conditions imposées par l'intervention, les histoires ont été limitées à une durée totale de 30 minutes, ce qui est quand même déjà pas mal. Elles ont servi d'entraînement à l'intelligence artificielle qui a comparé les signaux enregistrés avec les textes. Les chercheurs ont ensuite utilisé 8 phrases d'une durée totale de 40 secondes pour tester le modèle de manière objective. Ils ont également procédé à des tests d'intelligibilité subjective. Ils ont utilisé 40 enregistrements de chiffres, donc les chiffres de 0 à 9 qui ne faisaient pas partie des histoires lues précédemment, qui étaient prononcés par deux hommes et deux femmes différents de ceux qui ont lu les histoires. Et l'intelligence artificielle, elle a reconstruit les sons des chiffres à partir des signaux enregistrés qui ont été ensuite entendus par les volontaires de cette expérience. Et ils ont dû, ces volontaires, indiquer le chiffre, noter la qualité de la reconstruction, puis indiquer le genre de la personne qui parlait au départ, si c'était un homme ou une femme. Au final, les chercheurs ont obtenu un taux d'identification du chiffre de 75%. C'est quand même assez important et assez bluffant. Ils ont également pu identifier le genre du personne qui parlait, soit un homme, soit une femme, avec un taux de réussite de 80%. La prochaine étape des recherches devrait porter sur la reconstruction de mots ou de phrases plus complexes, bien sûr. Les chercheurs pourront ensuite tenter de transposer leur technique sur les aires du cerveau responsables de la parole. S'ils parviennent à trouver un système moins invasif, ce système pourrait alors être utilisé pour commander des appareils par la pensée ou même redonner la parole à ceux qui ont perdu la capacité de parler. C'est totalement important. Enfin, c'est un article qui fait froid dans le dos parce que ça donne des perspectives vraiment intéressantes. Mais voilà, une intelligence artificielle qui peut lire vos pensées et qui peut parler à votre place. Moi, je trouve ça extraordinaire. on voit des choses qui se passent en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau du cerveau.
C'est le sujet du moment.
Et là, on a les deux qui sont liés. Et voilà, maintenant, on va parler à ta place. Moi, je ne sais pas. Comment je pourrais réécouter Carole par la suite? Ça doit faire bizarre, je ne sais pas. Quand j'ai lu cet article, qui est un article tout à fait récent, hein, qui vient d'être sorti il y a quelques... C'était au début du mois de février. Quand tu vois ça, une intelligence artificielle qui peut lire vos pensées et parler à votre place, je ne sais pas, il y a à la fois quelque chose de techniquement extraordinaire...
Et un peu d'angoisse sur...
Et un peu d'angoisse pour ce qui peut se passer en termes de dérive.
Tout à fait. Je pense que ça, on verra. Et puis, il y a beaucoup de débats, justement, sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'aussi, avec tout ce qui s'est passé dans les films, tout ce qui a été imaginé, ça fait peur. Mais en tout cas, moi, j'entends beaucoup de personnes du domaine, où je lis beaucoup de choses, où ils disent que de toute façon, sans l'homme, il n'y a pas d'intelligence artificielle.
Oui, au départ. On ne sait pas la suite. En fait, on est là dans une science où, quelque part, on ne connaît pas l'issue, en fait. On ne sait pas trop où on va. Et on a parfois, je dis bien parfois, parce qu'on n'est pas dans le cœur du sujet, quand on a un regard extérieur, on a parfois l'impression qu'il y a certaines choses qui nous échappent. Mmh. Et que, d'un point de vue technique, c'est extraordinaire, bien sûr. Mais on a l'impression que ça va peut-être trop vite et qu'on ne prend pas le recul nécessaire. Peut-être. Mais c'est mon avis que je peux partager, évidemment, mais c'est mon avis en me disant... Depuis que j'anime cette émission il y a 10 ans, ces sujets-là, il y a 10 ans, mais on n'en entendait pas du tout parler.
Ouais, bien sûr,
c'était mais totalement... Et là, mais depuis 2-3 ans à peu près, l'intelligence artificielle... Alors oui, avant, on avait suivi là, cette espèce de combat, de jeu de Go. Là, on avait suivi ça en direct, d'ailleurs, dans cette émission, avec ce Chinois qui avait joué face à un ordinateur, et ainsi de suite. Voilà. C'était rigolo, on va dire, c'était sympa, et puis ça commençait à être symbolique. Mais là, on dépasse certaines barrières où techniquement, c'est extraordinaire. D'un point de vue éthique, c'est... on parle d'éthique, c'est un gros mot.
Il faudra mettre des limites, il faudra mettre un cadre, il y aura des lois, à mon avis, qui vont être issus de ça, de ces travaux.
Qui vont être issus de cela, mais il y a des lois qui vont être figées dans le temps face à une technologie en perpétuelle évolution trop rapide. Et le risque, c'est que l'instrument législatif va être dépassé le jour même où va être mis en place, en fait. Et donc, du coup, il n'y a pas que le législatif qui pourra apporter des réponses. Il y a aussi peut-être quelque part une prise de conscience et une implication de la société dans le sens large. Sauf que ces sujets-là, mais on n'en parle quasiment jamais. On ne va pas s'embêter à parler de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus utile d'avoir des sujets très terre-à-terre. Comme ça, on focalise bien sur ces sujets très terre-à-terre. Et des sujets comme ça, mais depuis plusieurs mois dans cette émission, on parle de choses où on se dit « mais ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité ». Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, soit on le regarde d'un point de vue positif en se disant « Oui, c'est des véritables avancées, c'est extraordinaire, vive la science, vive l'homme. » Puis du l'autre, tu te dis « Oui, mais il peut y avoir des dérives. » Et le problème, il est là, c'est que les dérives, on pourra après difficilement revenir dans un chemin qui nous paraît le plus juste possible. Voilà, j'aime bien avoir des grandes pensées comme ça.
Pensées philosophiques aujourd'hui.
Toujours dans cette émission, il n'y a pas de raison. Tu as encore un petit article ou tu veux qu'on écoute un peu de musique? Une bonne dizaine de minutes.
Je pense qu'on peut écouter un peu de musique et finir sur... justement, moi, j'ai une exposition à vous présenter.
Eh bien, on va parler de l'exposition, oui, c'est vrai, de ce mois de mars. Et puis, j'avais envie d'écouter un peu d'électro. Ça m'a pris comme ça. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de raison. Mais
pas de raison.
J'ai aussi envie de me faire plaisir.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était The Snake du groupe Perroquet de la région Centre. Ils étaient, faisaient partie de la programmation du Printemps de Bourges l'année dernière. Bientôt le Printemps de Bourges en avril. On suivra bien sûr dans cette émission et sur l'antenne de Graphite la programmation du Printemps de Bourges. Vous savez qu'on est assez intéressé par toutes les découvertes et ils faisaient partie des découvertes de l'année dernière. Voilà, j'avais envie un peu d'électro, mais j'ai le droit quand
c'était
même, Carole.
C'était très bien. Non, c'est...
Ça met de la pêche, c'était sympa. C'est une musique vraiment intéressante. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, soit le samedi entre 12h et 13h, soit le mardi pour la rediffusion, bien sûr, le mardi matin entre 10h et 11h. Merci de votre fidélité. On continue de parler de l'actualité scientifique et parfois on vous propose aussi la possibilité de visiter des expositions. C'est aussi un moyen de pouvoir approcher la science sous un autre angle.
Tout à fait. Et là, il fallait absolument que je vous parle de l'exposition événement qui aura lieu donc à la Villette en 2019. C'est l'exposition Toutankhamon qui va commencer donc là à la fin du mois jusqu'au mois de septembre 2019. Après, en fait, l'exposition emblématique qui a eu lieu en 1967, hein, Toutankhamon a fait l'objet d'une, d'une exposition au parc, donc des expositions de la Porte de Versailles en 2012. L'événement permettait déjà en fait au public de découvrir une reconstitution grandeur nature des trésors qui ont été découverts dans le tombeau du jeune pharaon. Il y a eu bien sûr d'autres expositions très connues de par le monde. Mais là, cette fois-ci, en 2019, c'est vraiment un événement puisque ce seront cette fois-ci des pièces originales hein, qui proviennent donc du Grand Egyptian Museum qui seront présentées donc là dans le mois de mars jusqu'au 30 septembre et c'est vraiment une exposition majeure. Ce sera au niveau de la grande halle de la Villette, donc à Paris. Ce qui est sûr, parce qu'on voit déjà des vidéos en fait hein, qui sont sur internet, c'est que cette fois-ci il y aura 150 objets dont certains n'ont jamais quitté l'Égypte, hein, qui seront présentés. Donc on imagine avec une scénographie d'une grande ampleur. Pour l'instant, puisque bien sûr l'exposition elle est itinérante au travers de grandes capitales de par le monde, elle est normalement en Californie. Hein, on est les seconds à pouvoir en profiter en France, donc à Paris. Et justement, on a certaines images hein, de la Californie où les gens sont apparemment bluffés par les objets qui sont présenté. Donc évidemment, cette exposition Toutankhamon à Paris, elle va largement contribuer au rayonnement des collections du Grand Egyptian Museum, qui donc est ouvert à quelques mètres des pyramides de Gizeh. Hein. Enfin, sera parce qu'en fait, ça a été reporté, c'était déjà prévu, mais un petit peu de retard apparemment. C'est prévu donc pour 2022. Et ce sera à l'avenir le musée qui sera le plus grand musée d'Afrique et qui réunira une collection de 100 000 objets. Voilà, donc moi je conseille vraiment cette exposition. N'hésitez pas de toute façon à taper Toutankhamon la Villette sur internet pour pouvoir justement avoir un peu une idée du type d'objet qu'on peut voir. Mais en tout cas, ce sont vraiment des pièces uniques, jamais vues, jamais présentées, donc pour certaines hors du Caire. Vraiment l'occasion d'en apprendre plus sur cette partie de l'histoire égyptienne et de découvrir, à mon avis, par la même occasion aussi, hein, toute cette histoire autour des fouilles, des découvertes de tombeaux de pharaons par les Européens.
Ils ont dû mettre en place, il y aura sûrement une scénographie extraordinaire. Parce que la grande halle de la Villette porte bien son nom. Oui. C'est une halle, c'est-à-dire elle est large, mais elle est aussi haute.
Je pense que le choix n'est pas fait au hasard.
Ah, il n'a pas été anodin et ils vont sûrement faire... on va avoir une immersion, en fait, à mon avis, dans cet univers de Toutankhamon. Ça doit être extraordinaire. Mm-hmm. Tu suggères de réserver peut-être à l'avance ?
Oui, je suggère de réserver à l'avance parce que les places ont déjà été mises en vente depuis l'année dernière.
Donc là, l'année dernière ?
Depuis l'année dernière, oui.
Oula,
donc
oui.
Après, j'imagine, je pense bien sûr que ce n'est pas complet, sinon on aurait été au courant, puis ça n'a pas encore commencé. Je suggère, oui, de rapidement prendre sa place. Et après, ça demande un peu d'organisation parce que je crois qu'il faut choisir donc une date et un créneau. Ça permettra en tout cas d'être sûr de pouvoir y assister parce que je pense qu'il y aura du monde.
Oui, tu m'étonnes, ça va être vraiment intéressant. D'ici là, si vous pour les vacances futures, par exemple, avec vos enfants, vous pouvez vous rendre à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Il y a plusieurs expositions temporaires qui sont proposées. La première, pour les enfants de 2 à 10 ans, donc les tout petits, ils peuvent participer à l'exposition Cabane. En fait, c'est un peu surprenant comme exposition. Ces enfants vont explorer une vingtaine de cabanes originales créées pour l'occasion par des artistes et des artisans. Une cabane faite de nœuds, une cabane qui bouge, une cabane transparente, une cabane dont on peut révéler l'intérieur, une cabane qui fait un peu peur, une cabane à construire, ainsi de suite. Donc, l'exposition qui s'appelle Cabane, proposée à la Cité des sciences et de l'industrie toute l'année 2020. Pour les moyens grands, on va dire à partir de 7 ans, vous avez l'exposition qui se poursuit, elle a démarré en octobre et qu'il se poursuit toute l'année 2019, c'est celle sur le corps et le sport, le corps, les gestes sportifs, les modifications corporelles et cérébrales qui surviennent lors de la pratique sportive. C'est une exposition qui présente toutes les informations scientifiques pour comprendre ce qui se passe dans notre corps comme dans notre tête, que l'on soit athlète de haut niveau ou sportif amateur. Exposition donc à partir de 7 ans à la Cité des sciences et de l'industrie. Et si vos enfants sont un petit peu plus vieux, c'est-à-dire à partir de 10 ans, ils peuvent aller aussi à cette exposition qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps et qui se terminera au mois d'août. Donc on a encore quelques mois pour y aller. Celle qui s'appelle Microbiote et qui est inspirée du best-seller Le charme discret de l'intestin. L'idée, c'est voilà, justement de comprendre son propre microbiote, le véritable marqueur personnel en constante évolution à l'instar des empreintes digitales. Et donc on essaye de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nos intestins et de comprendre un petit peu, par exemple, comment fonctionne la digestion et le bien-être intestinal. C'est déjà un niveau un petit peu plus élevé parce que c'est à partir des enfants de 10 ans. Mais en tout cas, voilà, vous avez trois niveaux d'exposition pour trois publics différents à la Cité des sciences et de l'industrie. Et bien sûr, partout ailleurs où que vous soyez, vous avez toujours un petit un espace qui permet de proposer une façon un petit peu plus pédagogique, ludique, interactive et originale de comprendre la science et la technologie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vous. D'ailleurs, le mois de mars, je ne sais pas quand, je n'ai pas les dates, mais c'est la semaine de l'industrie, qui est une autre façon aussi d'appréhender la technologie d'une façon concrète et en découvrant justement la technologie mise en place dans les entreprises. Eh bien, la semaine de l'industrie, il y en a notamment dans les régions de France, mais il y en a partout en France. Renseignez-vous sur la possibilité de voilà, visiter différentes entreprises. Ça peut être intéressant pour comprendre et ça peut être aussi intéressant pour susciter peut-être certaines vocations dans ces filières techniques, bien évidemment. C'est court en mars, je n'ai pas les dates, je suis désolé, mais je sais que c'est court en mars pendant une semaine, la semaine de l'industrie. Merci Carole.
Merci
pour
Jean-Noël.
Avoir participé à cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition de Biotine, l'émission de science et de technologie sur l'antenne de Graphite. Dans un instant, la suite de vos émissions, vous restez fidèles bien évidemment, parce que vous n'avez pas le choix de rester fidèles aux émissions de Biotine. Merci à vous. À samedi prochain. Salut.